France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Jane Austen, à cheval sur le 18e et le 19e siècle. L'auteure favorite des Anglais au 20e siècle est l'une des auteures anglaises les plus adaptées au cinéma et à la télévision à la fin de ce même 20e siècle et au début de notre 21e siècle. La fameuse Austenmania. Jane Austen, qui dès ses 12-13 ans commença à écrire, en l'occurrence une histoire d'Angleterre farfelue, invraisemblable. Mais bien sûr, ce sont les romans de la maturité, Orgueil et Préjugés, Emma, Raison et Sentiment, Mansfield Park, etc., que nous connaissons le mieux. L'ironie, la précision psychologique, la description de la gentry, entre bourgeoisie et petite aristocratie, les affaires d'amour, les affaires de bal, les affaires de mariage, qui font de Jane Austen une écrivaine que l'on lit toujours et encore. Une vie, une œuvre, première diffusion sur France Culture le 11 juin 2016.
A lady's imagination is very rapid. It jumps from admiration to love, from love to matrimony, in a moment.
Une vie, une œuvre, Jane Austen, Catherine Poinbert, Françoise Camard.
Se replonger dans les romans de Jane Austen, c'est se replonger dans un monde idyllique, une Angleterre pastorale pré-industrielle avec tous ces gens si bien élevés, toutes ces bonnes manières qui passent leur temps à boire du thé et parfois à se dire aussi des choses pas très aimables, avec une grande violence aussi au niveau des pratiques, que ce soit d'héritage et du statut de la femme, mais quand même dans les romans de Jane Austen avec toujours cette insistance sur la sincérité des sentiments, l'élévation, la délicatesse. Et je pense que c'est ça aussi qui fait tout le raffinement de l'œuvre et qui fait qu'elle reste pour moi inégalée.
À propos de Jane Austen, qu'elle admirait profondément, Virginia Woolf écrivait « Quoi de plus naturel pour Jane Austen, qui savait si bien en pénétrer la profondeur, d'avoir choisi d'écrire sur les banalités de la vie quotidienne, sur des réceptions, des pique-niques et des bals provinciaux ?» Tels des jardins clos abritant un art délicat et capable donc de donner de la profondeur aux banalités du quotidien, les romans de Jane Austen ont influencé des générations de romanciers anglo-saxons. D'Henry James à Anita Bruckner, en passant par Elizabeth Taylor ou Virginia Woolf, justement. Jane Austen, contemporaine de Walter Scott, le père du roman historique britannique, fut l'autre grande plume de son temps. Formidable peintre des mœurs de son époque, elle décrit avec une grande maîtrise et un esprit d'une remarquable indépendance les amours, les déboires, les ambitions de la gentry. Loin des tourments révolutionnaires qui déchirent alors le continent, loin du romantisme qui balaie le paysage littéraire, le monde de Jane Austen forme une sorte de parenthèse dans laquelle s'épanouit une société paisible, dépeuplée de drames, dominée par une affabilité qui pourrait faire sourire si elle ne possédait un certain charme. Et puis, derrière cette apparente superficialité, l'une des questions essentielles qui traverse son œuvre est bien celle de la condition des femmes. Tout un courant de la critique s'est d'ailleurs placé sous l'étendard féministe pour souligner l'acuité avec laquelle Jane Austen mettait en relief la dépendance financière, sociale et sexuelle des femmes. Le grand art de Jane Austen, c'est cette esthétique contrôlée à la surface lisse, à l'architecture maîtrisée, cette langue à la fois contenue et violente où perce une ironie impertinente et irrésistible. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit l'auteur favori des Anglais. «
Jane Austen est née en 1775, elle est décédée en 1817, elle a donc vécu entre deux siècles. La première difficulté, peut-être, pour situer Jane Austen et son œuvre, Alain Jumeau, réside dans le fait de savoir, au fond, si elle appartient au XVIIIe ou au XIXe siècle.
Elle appartient à la fois au XVIIIe et au XIXe, c'est-à-dire que elle est l'héritière des journalistes et essayistes du XVIIIe. Elle connaît très bien les romanciers du XVIIIe. Elle est contemporaine des romancières de la fin du XVIIIe. Et en même temps, elle est contemporaine de quelqu'un qui va inaugurer un genre nouveau. C'est Walter Scott, au début du XIXe. On peut dire qu'elle appartient à une période charnière qui, pour nous, il faut le rappeler, est très importante, mais qui l'est tout autant pour la Grande-Bretagne, c'est la période de la Révolution et des guerres napoléoniennes. Il faut la situer dans ce contexte, c'est-à-dire que toute sa création a pour toile de fond une période extrêmement troublée. La France, à cette époque-là, c'est le danger suprême.
Par rapport à la grande époque victorienne, qui est un peu la référence majeure, bien évidemment, lorsqu'on aborde la culture et la création anglo-saxonne, comment situer, Alain Jumeau, l'œuvre de Jane Austen ? Est-ce qu'on peut dire que finalement elle a joué un rôle de précurseur ?
Absolument. Il faut probablement voir en elle une pionnière, une créatrice. Elle a inventé un genre nouveau. Elle a inventé le roman psychologique. Et surtout, elle a inventé quelque chose qui est promis à un avenir extraordinaire, c'est le style indirect libre, comme technique narrative qui permet d'avoir accès directement aux pensées intérieures d'un personnage. Même si c'est pas elle qui a eu l'étincelle de la création, c'est elle qui a systématisé ce procédé narratif, et naturellement, ça ouvre la porte au roman moderne.
Les sœurs de Bingley étaient ce qu'on a coutume d'appeler des dames de qualité, c'est-à-dire qu'elles ne manquaient ni d'amabilité, pourvu qu'elles fussent satisfaites, ni de séduction lorsqu'elles voulaient plaire. Mais elles étaient consumées par l'orgueil et la vanité. Plutôt jolies femmes au demeurant, éduquées dans l'un des tout premiers pensionnats de Londres, nanties chacune de 20 000 livres, habituées à dépenser plus que de raison et à fréquenter des personnes d'un certain rang, bref, disposées en tout point à se trouver parfaites et à mépriser les autres.
Sa description est très cadrée. On n'aura pas toute la société, on n'aura pas les classes populaires. Les domestiques sont présents, mais on n'en parle pas. La petite bourgeoisie est très peu présente dans ses romans. La grande aristocratie, très rarement présentée. Il y a quelques représentants de l'aristocratie, peu nombreux. En général, ils font l'objet d'une satire assez mordante. Il reste la haute bourgeoisie et surtout quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous Français, ce que l'on appelle la « gentry ». C'est-à-dire cette fraction qui est à cheval sur la bourgeoisie et la petite aristocratie. Le dénominateur commun, c'est la notion de gentleman. C'est quelqu'un qui est de bonne famille, de bonne naissance, qui a reçu une éducation, qui est un privilège à l'époque, et le plus souvent, quelqu'un qui est propriétaire terrien, qui reçoit des revenus de ses terres, c'est la source de toute fortune à l'époque, et qui par conséquent n'a pas besoin de travailler. Naturellement, on pourrait ajouter des critères moraux, spirituels, mais au départ c'est ça.
Alors non seulement les romans de Jane Austen sont très ciblés socialement, Alain Jumeau, puisque donc elle s'intéresse essentiellement à la gentry, mais de surcroît, les événements politiques ne sont pas présents dans ces romans. C'est-à-dire que ce sont des romans qui s'intéressent essentiellement à des questions, on pourrait dire des questions domestiques.
L'image que l'on a généralement de Jane Austen, c'est des jeunes filles qui cherchent des bons maris, des bons partis, et qui, après beaucoup de péripéties, finissent par les trouver. Bon. Mais quand on regarde les choses de beaucoup plus près, on s'aperçoit que les grands événements historiques qui l'entourent ne sont pas nécessairement absents. Simplement, il faut bien les chercher pour en trouver la trace. Alors, prenons Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice. Vous avez des phénomènes qui peuvent passer inaperçus pour une lecture rapide. Par exemple, le fait que le jeune homme qui attire l'attention de Elizabeth Bennet dans un premier temps, Wickham, est un officier de la milice. Et il y a une concentration d'officiers de la milice à Brighton. Peut-être parce que, dans l'idée des Anglais, à l'époque, on craint un débarquement des troupes françaises. Par conséquent, ce rassemblement de militaires a un lien avec l'actualité politique, voire stratégique.
Une autre caractéristique des romans de Jane Austen, Alain Jumeau, c'est le fait qu'ils se déroulent pour l'essentiel à la campagne, c'est-à-dire que Londres, en général, est évoqué, mais de façon plutôt lointaine. Alors ça, c'est le reflet du fait que nous sommes à l'époque encore dans une société qui est essentiellement rurale ?
Tout à fait. On est quelqu'un lorsque l'on a un domaine. Et lorsqu'on a acquis une richesse très récente, on a comme ambition d'acheter un domaine. C'est ce que fait Bingley, l'ami de Darcy. Il commence par louer et puis il cherche quelque chose où investir son argent gagné par son père.
Single women have a dreadful propensity for being poor, which is one very strong argument in favor of matrimony.
Jane Austen a été, je dirais, presque traumatisée par les questions d'argent, les questions pécuniaires dès son plus jeune âge. Elle y a été sensibilisée parce qu'effectivement, ses parents avaient des dettes et une grande famille, effectivement, à nourrir. Et ils étaient obligés de prendre en pension des élèves au presbytère pour arrondir leur fin de mois. C'était un problème.
Un peu à l'image de ce que l'on peut voir dans le roman Orgueil et Préjugés, où Mrs. Bennet est tout à fait obsédée par la question de marier ses cinq filles, Madame Austen, la mère de Jane, avait également cette préoccupation, parce que finalement des jeunes filles de conditions modestes, enfin en tout cas dont la famille n'avait pas de moyens importants, c'était un véritable problème de marier ses filles à l'époque, Marie-Laure Massey.
Oui, alors Jane effectivement n'avait pas de dot. Elle ne possédait que 50 livres, ce qui l'excluait complètement de ce qu'on appelle le marriage market, qui est le marché matrimonial. Donc, à partir de là, elle n'avait pas vraiment le choix sur le marché matrimonial de son petit comté du Hampshire. Et sa mère l'a peut-être un petit peu poussée à fréquenter les bals de la région. Son père a fait en sorte qu'il déménage à Bath en 1800. Mais ni à Bath, ni dans sa région d'origine, Jane n'a rencontré de parti avantageux.
Oui, finalement, elle va rester célibataire, bien qu'elle ait eu tout de même des...
Deux aventures répertoriées. Donc avec un jeune Irlandais, Tom Lefroy, qui est le neveu de son amie, Mrs. Lefroy, amie et voisine. Et bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais sans doute que l'impécuniosité de Jane a conduit Mrs. Lefroy, l'amie de Jane Austen, à renvoyer son neveu en Irlande pour le sauver d'un mariage qui ne lui aurait pas apporté beaucoup de satisfaction sur le plan financier. Donc, premier revers de fortune lorsqu'elle avait 21 ans, l'âge d'Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, et apparemment elle a été marquée par ce premier amour.
À Cassandra, le 9 janvier 1796. J'ai passé une nouvelle soirée en compagnie de Monsieur Tom Lefroy.
J'ai presque peur de te raconter comment nous nous sommes comportés, mon ami irlandais et moi. Imagine-nous assis côte à côte ou dansant de la façon la plus choquante et la plus dévergondée. Il ne me restera pourtant plus qu'une seule occasion de me donner en spectacle, puisqu'il quitte la région peu après vendredi prochain. Jour où nous devons encore aller danser à H. C'est un très charmant jeune homme, distingué et beau garçon, je t'assure. Jane.
Et ensuite, à 27 ans, elle a reçu une proposition de mariage d'un ami encore, qui s'appelait Harris Bigweather. Le problème est que le jeune homme bégayait, qu'il n'était sans doute pas au même niveau intellectuel que Jane. Et même si les amis de Jane, qui étaient donc les sœurs de ce Harris, auraient bien voulu que l'union se fasse, Jane avait dit oui le soir, et puis la nuit portant conseil, le lendemain elle s'est ravisée et elle a décliné la proposition. Bon, par là même, refusant un avenir qui lui rapportait beaucoup de sécurité, puisque Harris Bigweather était propriétaire terrien. Donc il avait une richesse foncière qui aurait mis Jane à l'abri de beaucoup de soucis.
À l'époque, le fait d'écrire ne pouvait être considéré que comme un passe-temps et non pas comme une activité professionnelle. Et pourtant, ça a été l'activité de Jane Austen durant toute sa vie. Ce qui nous renvoie à la question économique. Comment a-t-elle fait pour vivre ?
Étant donné que ses parents étaient relativement modestes, de bonne naissance mais fauchés, il n'était pas question de réserver une somme d'argent comme dot, ni pour sa sœur Cassandra, ni pour elle-même. Donc c'était des jeunes filles très difficiles à marier. Elles n'apportaient rien. Et ce qui est touchant, c'est que elles avaient quand même, grâce à l'intervention et petits héritages, toutes les deux, Cassandra et elle, les deux sœurs, avaient un petit budget. On sait ce qu'elles dépensaient pour ses robes, ses rubans, ses chapeaux, très peu. Ce qu'elles dépensaient pour la correspondance, ce qui coûtait très cher à l'époque. Et surtout, il y avait toujours un poste pour les activités charitables. Elle donnait de l'argent aux pauvres dans la paroisse de son père. Elle savait où ils étaient, elle savait de quoi ils avaient besoin. Jane Austen est restée non pas pauvre, mais très modeste. Et quand elle a pu recevoir un peu d'argent à elle, elle a été prise d'une véritable joie, comme Virginia Woolf avec ses 3 guinées beaucoup plus tard, parce que c'était à elle, elle l'avait gagné par elle-même, et elle pouvait en disposer comme elle l'entendait. Pour elle, c'était vraiment quelque chose de fabuleux.
Le 2 juin 1799, j'ai vu des mousselines dans une boutique de Bass Street hier à seulement 4 shillings le yard. Mais elles n'étaient ni d'aussi bonne qualité, ni aussi jolies que les miennes. On porte énormément de fleurs, et les fruits sont encore plus à la mode. Elisa a une touffe de fraises, et j'ai vu des raisins, des cerises, des prunes et des abricots. On trouve aussi des amandes et des raisins secs, des pruneaux et des tamarins chez les épiciers. Mais je n'en ai jamais vu sur les chapeaux. Jane.
Mrs. Bingley, charming.
Mais à vrai dire, nous savons très peu de choses de la vie privée de Jane Austen, Marie-Laure Massey, pour une raison simple, c'est qu'une bonne partie de ses lettres ont été détruites. Dans quel esprit, est-ce qu'il faut parler de censure ? Dans quel esprit a-t-on détruit ces lettres, précisément ?
Bon, alors, ça, c'est très difficile de le savoir. Hein. Donc, c'est Cassandra qui gardait ces lettres comme un trésor et qui a décidé de les détruire à la mort de Jane. Alors, pourquoi ? Sans doute parce qu'elle commençait à sentir que les romans connaîtraient une certaine notoriété et elle a voulu protéger, je pense, leur intimité. Donc, Il ne reste qu'une centaine de lettres, intéressantes d'ailleurs, assez méconnues hein, du grand public. Bon, c'est vrai qu'il faut s'y plonger et passer outre tous les petits détails de la vie quotidienne, mais elles nous renseignent bien sur la période pendant laquelle Jane Austen a vécu, c'est-à-dire de 1796, date de la première lettre conservée, à la mort de Jane en 1817. Hein.
Jane Austen commence à écrire extrêmement tôt, Marie-Laure Masséi. D'ailleurs, il y a oui. une partie de son œuvre qu'on répertorie en général sous l'intitulé d'œuvres de jeunesse, que l'on considère un peu comme des textes de second ordre, mais enfin qui sont très précoces.
Très précoces, parce qu'effectivement, elle se met à écrire dès 1793. Donc elle avait 12-13 ans, hein. Elle se met à écrire une histoire d'Angleterre complètement farfelue, invraisemblable, truffé de peut-être de private jokes comme on dit, hein, c'est-à-dire de petites blagues privées entre les Austin, entre frères et sœurs. Elle se met à écrire des œuvres de jeunesse, les juvenilia, avec des histoires improbables ou la rhétorique de l'excès, l'hyperbole, l'exagération sont au programme au niveau du style. Donc complètement à l'opposé de la Jane Austen des six romans achevés, des six romans de la maturité.
Alors ces six romans de la maturité qui sont eux extrêmement connus et extrêmement populaires en Angleterre, si on doit les qualifier comme ça un peu rapidement, on a tendance à souligner le fait que ce sont des romans dans lesquels il y a une acuité de regard extrêmement forte sur l'époque et sur les contemporains. C'est-à-dire Jane Austen est un peintre formidable de son temps.
Alors, peintre formidable de son temps, oui, mais à travers un prisme restreint. Elle regarde la société à travers le cadre du mariage, de l'argent, du statut de la femme dans sa société. Le choix qu'elle fait sciemment, c'est 3 ou 4 familles dans un petit village de campagne, dans l'Angleterre rurale. Et à partir de ces 3 ou 4 familles, elle arrive à brosser un portrait complet d'une micro-société, d'un microcosme, qui est révélateur, effectivement, de cette Angleterre au tournant des 18e, 19e siècles.
Alors, on entre, Marie-Laure Masséi, dans ce microcosme que dépeint Jane Austen par le biais de personnages qui sont souvent des personnages féminins, les héroïnes, les personnages principaux sont souvent des femmes. Alors, avec ce talent absolument exceptionnel qu'elle a pour caractériser un personnage en quelques traits, c'est d'une efficacité absolument voilà. admirable.
C'est d'une efficacité admirable parce que la langue austénienne est un concentré remarquable d'ironie, d'allusion, de précision, de clarté. Et il y a tout un jeu aussi polyphonique avec le jeu sur tous les narrateurs et puis le discours indirect libre qui permet effectivement de transmettre plusieurs idées, plusieurs allusions dans la même phrase.
It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.
Il est universellement admis qu'un célibataire nanti d'une belle fortune a forcément besoin d'une épouse. Donc toute la question ici est de savoir qui parle. Quel est le narrateur ? Est-ce que c'est la voix de la vox populi ? Est-ce que c'est justement la voix des potins ? Est-ce que c'est le narrateur d'Orgueil et Préjugés ? Est-ce que c'est Mr. and Mrs. Bennet ? Le voisinage ? Donc il y a toute cette incertitude dès le début du roman sur le statut du narrateur, parce qu'il faut toujours se demander quel est le statut de celui qui parle.
Il y a cette efficacité formidable du style, et puis il y a aussi dans le regard donc une acuité, mais c'est pas toujours empreint d'une tendresse absolue. Elle est un peu coriace, hein, plutôt cruelle, plutôt ironique. Il y a beaucoup comme ça de pugnacité de sa part.
Oui, pugnacité, oui, je crois que c'est vraiment le substantif qui convient parce que Jane Austen était en marge. Donc en marge de de ses contemporaines, d'abord parce qu'elle avait choisi d'écrire des romans, en marge du marché matrimonial, en marge financièrement également. Donc tout ça lui donnait une position finalement privilégiée pour observer le monde qui était le sien, pour en comprendre les rouages avec peut-être plus de lucidité que ses contemporaines qui étaient plongées dans le mariage et dans la famille. Et d'ailleurs, elle dit dans une lettre, mais comment faisait Mrs. West, une romancière du 18e, pour écrire des romans avec la tête pleine de doses de rhubarbe et de moutons, parce que apparemment elle cuisinait, cette Mrs. West, elle était mère de famille. Et Jane avait besoin effectivement d'être en marge pour pouvoir créer. Et puis d'ailleurs, je pense que cette marginalité, même au niveau pécuniaire, a été une motivation supplémentaire dans le travail de création. Ça a représenté vraiment un aiguillon pour elle.
Alors, il faut dire tout de même, Marie-Laure Massey, une chose importante, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans les romans de Jane Austen, voire même rien.
Oui, les intrigues sont même répétitives d'un roman à l'autre, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le percevoir en surface, mais tout ça n'est que superficiel, puisqu'effectivement, chaque intrigue a sa propre thématique, explore un thème particulier. Dans Raison et Sentiment, on n'a pas du tout la même approche du mariage que dans Orgueil et Préjugés, par exemple, où Orgueil et Préjugés est plus lié à la romance, au conte, il y a tout l'hypotexte du conte de fées qui est très perceptible.
A lady's hand at work on a delicate piece of floral embroidery. Starring Colin Firth as Mr. Darcy and Jennifer Ely as Elizabeth Bennet.
L'engouement des scénaristes et des réalisateurs pour l'œuvre de Jane Austen est tel que les adaptations s'enchaînent à un rythme assez effréné. À vrai dire, c'est un cas assez unique et assez particulier d'adaptation d'une œuvre littéraire à l'écran. Comment expliquer cet engouement, Ariane Hudley ?
C'est la grande question. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'avant les années 90, il y a eu très peu d'adaptations au cinéma. Il y a eu une seule adaptation en 1940. Depuis les années 90 et surtout depuis 1995, là, on a des films de cinéma et on a des grosses productions télévisuelles, des coproductions américano-anglaises qui touchent des millions de spectateurs, qui se vendent très très bien en DVD. Donc c'est vrai qu'il y a un phénomène commercial et extrêmement populaire des films de Jane Austen depuis 1995, avec une période qu'on a appelée l'Austenmania de 95 à 97, parce que tout à coup, il y a eu une dizaine de films comme ça qui sont sortis presque en même temps. Bien sûr, on trouve les éléments de base des comédies romantiques qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, c'est-à-dire un héros, une héroïne qui au départ ne se comprennent pas, qui doivent surmonter des épreuves pour à la fin se retrouver et se marier dans une union apparemment parfaitement heureuse. On a dit souvent aussi que c'était une tendance un petit peu nostalgique du public qui avait envie de voir des films avec des beaux costumes, où les gens parlent bien, où tout le monde est très poli, où il n'y a pas de gros mots, où il n'y a pas de voitures qui font du bruit. Donc un côté un petit peu rétrograde et conservateur finalement, où les codes sociaux sont bien établis, où il y a des hiérarchies bien posées, où c'est pas trop subversif. Donc il y a eu aussi cette idée-là, que finalement, bon, c'était un plaisir un petit peu, un peu conservateur et un peu, ce qu'on dit en anglais, escapist, c'est-à-dire pour échapper à la réalité contemporaine qu'on aime ces films-là. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a des films qui mettent en avant, au contraire, le côté un petit peu subversif, justement, de Jane Austen, et pas que son côté romantique. Donc il y a plusieurs raisons. Moi, je pense que c'est simplement parce qu'elle a de très bonnes histoires, des personnages extraordinaires, et aussi pour la qualité du dialogue. Il y a beaucoup de dialogues dans ses romans qui peuvent être très facilement transposés presque tel quel au cinéma. Donc voilà, ce sont des histoires gratuites déjà, parce que les romans sont plus sous copyright. Donc bien sûr, il y a une économie de ce point de vue-là, et ça marche bien. Et puis à partir du moment où il y a eu des succès en 95-96, on enchaîne là-dessus aussi, on table là-dessus.
Lydia dons Kitty's bonnet. Kitty bolts from the room in tears, passing Jane in the hall.
What is the big puzzle? Jane? Lizzie? Where are you?
Si nous prenons l'exemple d'un des romans de Jane Austen, Orgueil et Préjugé, on peut probablement considérer que la série qui avait été tournée par la BBC en 1995 a été un peu précurseur de ce phénomène d'engouement extraordinaire pour l'adaptation des romans de Jane Austen.
Oui, tout à fait, c'est un véritable phénomène télévisuel et public, cette série. Ça a été suivi par des millions de téléspectateurs en Angleterre et par la suite aux États-Unis. Il y a eu des Pride and Prejudice parties, qui étaient en fait des Darcy parties, du nom du héros du roman, Darcy, qui a suscité un engouement extraordinaire auprès du public féminin, de par l'interprétation de l'acteur Colin Firth, qui, c'est vrai, est un très bon acteur et qui est parvenu à interpréter ce personnage qui est tout en désir réprimé, en quelque sorte, d'une manière telle qu'il y a eu un phénomène d'engouement vraiment remarquable. Notamment à cause d'une scène très célèbre aussi, où on le voit plonger dans un lac et ressortir avec sa chemise qui colle à son torse musclé.
Lorsque vous dites qu'il y a des Pride and Prejudice parties ou des Darcy parties, c'est quoi exactement ?
Ce sont des Anglaises qui se retrouvent et puis qui se mettent le film et qui jouent cette scène où ils plongent dans le lac et qui se pâment et qui discutent des personnages, de leurs motivations. Ça se retrouve aussi sur Internet. Il y a une pléthore de sites Internet dédiés à Jane Austen et au film. Le phénomène Internet autour de Jane Austen est né à partir des films, à partir de sites d'échanges et de discussions sur les films. Et vous allez trouver des forums, des blogs, des sites Internet très multiples sur Jane Austen où les internautes passent des pages et des pages et des pages à discuter des personnages, de l'interprétation des romans, du devenir, de ce qui aurait pu se passer si. Donc ça se développe aussi à travers l'espace virtuel d'Internet.
Pour donner la mesure, Ariane Hudley, de ce phénomène réellement impressionnant des adaptations à l'écran de Jane Austen, il faut dire que ça a dépassé les frontières du Royaume-Uni, vous le disiez, États-Unis, Australie, mais également jusque dans les anciennes colonies britanniques, c'est-à-dire en Inde, puisqu'il y a des versions Bollywood.
Oui, la première, c'est une version tamoule de Raison et Sentiment, sortie en 2000, qui s'appelait Kandokonden, Kandokonden. Et puis, par la suite, il y a eu, donc, en 2004, le film qui s'est appelé en France Coup de foudre à Bollywood et en anglais Bride and Prejudice, réalisé par Gurinder Chadha, qui est une réalisatrice anglaise d'origine indienne, et qui a fait ce film à mi-chemin, finalement, entre l'Angleterre et l'Inde. Elle transpose les personnages et l'intrigue très provinciale d'Orgueil et Préjugé sur une échelle mondiale, donc elle globalise Jane Austen, elle la mondialise, et ça marche très bien.
Alors, Orgueil et Préjugé a également eu une adaptation cinématographique extrêmement populaire et fameuse en 2005, c'était la réalisation de Joe Wright. Alors là, très populaire, probablement aussi en raison de la comédienne qui a été choisie pour le film, la très très belle Keira Knightley, qui fait beaucoup d'effets.
Oui. Oui, oui, c'est sûr qu'elle a été choisie justement parce qu'elle ne rentre pas dans ce groupe d'acteurs et d'actrices qui sont catégorisés dans les films en costume, ou les films qu'on a appelés en anglais les heritage films, ou les films de patrimoine, c'est-à-dire les films en costume adaptés de romans classiques, tournés dans des demeures d'époque, qui se veulent un petit peu authentiques. Et c'est vrai que Keira Knightley, elle n'était pas associée à ce genre de rôle. Donc elle a été utilisée pour revivifier un petit peu le genre, finalement, par Joe Wright. Et ça a bien marché, puisque le film a eu beaucoup de succès auprès d'un vaste public. Il a même été au programme des concours de recrutement des enseignants du secondaire, de l'agrégation d'anglais, 2 années durant, alors que c'était un film qui était sorti il y a quelques mois auparavant. Donc on voit que, voilà, ça devient aussi, ça fait partie du canon que l'on choisit pour représenter la culture anglophone aujourd'hui, y compris dans des institutions comme l'agrégation ou le CAPES.
Si on s'en tient à
l'action dans les romans de Jane Austen, Marie-Laure Massey, en réalité, les points culminants, en général, ce sont les balles, sont les moments les plus importants. C'est là où il se passe enfin quelque chose.
Ben, ce sont des moments d'autant plus importants, ces balles, que c'est l'occasion pour les jeunes femmes de la gentry de rencontrer des partenaires plus ou moins fortunés sur ce fameux marché matrimonial. Et c'est l'occasion de nouer des liens et, d'un point de vue romanesque, d'avancer un petit peu, de faire avancer l'intrigue, hein. Donc effectivement, ces scènes de bal sont structurantes et on les retrouve d'ailleurs dans les adaptations des romans. Elles sont très soignées par les metteurs en scène parce que ils savent que ce sont des moments clés dans l'intrigue romanesque.
In a two-line formation before the chamber musicians, the ladies and gentlemen set to their respective partners, then in unison glide across the floor, back and forth, a blaze of color and feathers.
Nous y sommes, c'est donc le premier bal. Alors là, c'est la version BBC, pionnière donc dans le domaine de l'adaptation pour Orgueil et Préjugés.
Voilà. Donc le début de Pride and Prejudice, c'est une conversation entre monsieur et madame Bennet qui porte sur l'arrivée de Mr. Bingley, qui est le nouveau venu dans le village de Meryton et qui est un jeune homme plein de promesses puisqu'il a de l'argent et il n'est pas marié. Donc, il intéresse tout le monde parce que c'est une proie facile pour l'une des filles à marier du comté. Et c'est le premier moment où on le découvre. C'est le bal de Meryton. Et donc, Mr. Bingley arrive accompagné de ses sœurs et d'un ami, Mr. Darcy, dont on ne sait pas grand-chose au début, mais les espoirs sont très hauts puisqu'on sait qu'il est très riche et qu'il n'est pas marié. Donc tout le monde a une impression favorable.
Bien qu'il soit un peu austère. Alors, au dire qu'à l'image,
avant,
il est quand même
Avant de le voir, le préjugé est favorable. Dès qu'il arrive, sa cote de popularité tombe en une demi-seconde, puisqu'il est extrêmement fier, il n'est pas très sympathique avec les locaux, tout le monde le perçoit comme très méprisant. Donc tout le monde se fait une opinion négative de Mr. Darcy, y compris notre héroïne Elizabeth. Voilà, elle décide qu'elle le déteste, que c'est un mufle, qu'il est horriblement fier et qu'il ne mérite pas son attention. Et bien sûr, tout le roman va s'attacher à montrer comment Darcy évolue, c'est-à-dire à peine a-t-il prononcé ces mots qu'il se dit que finalement elle a de bien beaux yeux et qu'il aurait peut-être dû danser avec elle. Et elle va mettre plus de temps à comprendre qu'elle avait finalement des préjugés aussi rigides que lui et qu'elle l'a jugé trop vite et que finalement il a des qualités. Vous aimez danser vous-même ?
Il n'y a rien que j'aime mieux, madame. Et si Miss Bennet n'est pas autrement engagée, pourrais-je être si bold as to claim the next two dances?
Je ne suis pas engagée, sir.
Good.
Vous nous faites un grand honneur, sir. Thank the gentleman, Jane. And you, sir, are you fond of dancing too?
Oh, I beg your pardon. Mrs. Bennet, may I present my friend, Mr. Darcy?
You are very welcome to Hertfordshire, I am sure, sir. And I hope you have come here eager to dance as your friend has.
Thank you, madam, I rarely dance.
Là, on voit bien à l'image le contraste entre les deux personnages masculins, qui sont donc les deux amis, Mr. Bingley et puis Mr. Darcy. L'un est tout en courbette, en douceur et en sourire, tandis que l'autre est extrêmement sévère. Alors, il signifie aussi quand même une chose, là, c'est qu'il appartient à une classe sociale qui n'est pas la même que le public environnant.
Bien sûr, oui. Bingley et Darcy sont au-dessus du reste de l'assemblée. Ils viennent de Londres, ils ont une maison à Londres, et Darcy a un domaine à la campagne qui est le signe qui fait partie d'une classe un petit peu supérieure à ceux qui sont ici présents. Bingley est un petit peu en dessous de Darcy, mais il est pas mal quand même. Donc bien entendu, voilà, il a tout à fait conscience de sa propre supériorité, qu'il exprimera à plusieurs reprises, notamment au moment où il demandera Elizabeth en mariage. Sa première demande en mariage commencera par toute une explication de J'ai fait tout ce que j'ai pu pour pas être amoureux de vous, et Dieu sait que ça m'embête et que vous ne me méritez pas, mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi, est-ce que vous voulez m'épouser ? Question à laquelle, bien sûr, elle répondra par la négative. Donc voilà, il y a toute cette question, bien sûr, des classes sociales et de la distinction sociale qui va devoir être dépassée, et qui est un des aspects d'ailleurs assez progressiste des romans de Jane Austen. Elle considère que, certes, un mariage, se marier avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est pas raisonnable, mais se marier sans amour uniquement pour des raisons sociales et de classe n'est pas non plus satisfaisant. Donc il faut avoir les deux, et voilà, c'est pas parce qu'elle a peu d'argent qu'elle est inférieure à Darcy. Elle va elle-même l'exprimer ainsi plus tard. Elle dira « Je suis son égale, il n'y a pas de raison. » Voilà.
« Did you ever meet such a proud, disagreeable man ?»«
Why, he will leave you. »«
I don't care if he does. And his friend disposed to be so agreeable and everything charming. Who is he to think himself so far above his company ?»«
Well, the very rich can afford to give offense wherever they go. »
On a dans cette version BBC la magnifique Mrs. Bennet, donc la mère de ses cinq filles à marier, qui est incarnée par une comédienne assez incroyable, parce que elle frise pratiquement le ridicule avec une petite voix aigrelette et puis des manières dans le film qui sont plutôt comiques. Oui, là, on a un effet comique.
Bien sûr.
Qui est vraiment très marqué.
Oui,
hein.
Mais il y a des personnages comme ça, des réelles caricatures dans Jane Austen. Et Mrs. Bennet en est un exemple flagrant. Elle est la bêtise incarnée. Et elle a peu d'aspects qui la rachètent, finalement. Donc, l'interprétation de l'actrice, la Alison Steadman, est assez fidèle. C'est vrai qu'elle est extrême. Elle fait vraiment complètement hystérique, mais c'est pas loin de ce qu'on a dans le roman, finalement. Le personnage de la mère est jamais présenté de manière positive.
On the dark street below, local men are getting merry and mimicking the dancing going on inside. One man is so enthusiastic, he trips and falls in a water trough.
Même scène, premier bal du film, mais cette fois-ci version cinématographique de 2005.
Donc on a une scène de bal qui est très différente parce que il y a beaucoup de mouvements. On se croirait dans une danse de western plus que dans une danse de film en costume qui se passe au début du 19e en Angleterre. Et le premier regard est très différent puisque Darcy, Bingley et la sœur de Bingley arrivent et c'est toute l'assemblée se fige pour les laisser passer. Et lorsque Darcy passe près d'Elisabeth, leurs regards se croisent. Et on a une sorte de petit choc électrique, comme ça, où on sent que tous les deux sont troublés, et ils détournent le regard. Donc, au lieu d'avoir un premier regard où Darcy baisse les yeux vers cette fille qu'il n'a jamais vue et il la déclare pas très jolie, là, on a le coup de foudre, finalement. On a un premier regard qui, tout de suite, symbolise l'émotion, le trouble, qui est à 10 000 lieues de ce qu'on a dans le roman et de ce qu'on avait aussi dans la série de 95. Donc, on voit qu'ici, le film fait rentrer cette première rencontre dans le modèle de la comédie romantique où il faut quand même qu'il y ait un petit peu de coup de foudre, sinon ça marche pas.
Et avec des personnages qui sont peut-être un peu moins caricaturaux que dans la série de la BBC, la mère notamment les moins, vous le disiez, Mr. Darcy également, donc les personnages sont un peu atténués dans leurs extrêmes, disons dans leurs extrêmes, oui.
Oui. Le personnage de la mère, oui, alors elle est moins caricaturale, elle est aussi beaucoup plus plaisante, c'est pour ça qu'on l'aime mieux, c'est que finalement, elle aime ses enfants, elle aime Elisabeth. Dans le roman, elle n'aime pas sa fille. Le texte dit très précisément qu'Elisabeth est celle de ses filles qu'elle aime le moins. C'est assez dur quand même comme phrase par rapport à une mère. Et on voit aussi dans le film de Joe Wright que Elisabeth, elle aime bien sa mère et ses parents, ils s'aiment bien finalement, alors que dans le roman, pas du tout. Et on voit que cet aspect-là, c'est un des aspects qui nous dérange chez Jane Austen aujourd'hui, et qu'on a du mal, dans un film hollywoodien ou dans un film grand public comme celui-ci, à représenter des figures parentales déficientes, à représenter des relations parents-enfants qui ne correspondent pas à nos idéaux d'aujourd'hui.
She is the most beautiful creature I have ever beheld. But her sister Elizabeth is very agreeable.
Fairly tolerable, I dare say. Not handsome enough to tempt me. You'd better return to your partner and enjoy her smiles. You're wasting your time with me.
Alors là, je crois qu'on voit le passage où Mr. Darcy vient de dire que finalement, elle n'est pas suffisamment jolie pour retenir son attention.
Voilà. Mais à ce moment-là, Elizabeth est cachée. Il ne la voit pas. Donc ça sous-entend qu'il a il sait déjà qui elle est. Alors que dans le roman, c'est Bingley qui lui montre, qui lui dit « Regarde, ça c'est Elizabeth Bennet, tu devrais danser avec elle. » Il la regarde et il lui dit « Non, ça ne me suffit pas. » Ici, il lui dit « Si tu allais inviter Elizabeth Bennet à danser. » Et donc sa réponse négative sous-entend qu'il sait déjà qui elle est. Et la formulation de sa réponse est également plus douce que ce qu'on peut trouver dans le roman. Donc on voit une tendance à atténuer les aspects un petit peu rudes que l'on avait dans le texte de Jane Austen.
To be fond of dancing was a certain step towards falling in love.
Alors, version Bollywood d'Orgueil et Préjugés, la même scène, c'est-à-dire la première scène de bal, mais là qui en l'occurrence est une scène de mariage.
Oui, c'est une amie donc, de l'héroïne, Elizabeth Bennet devient Lalita Bakshi. Et c'est une amie qui se marie, donc c'est un mariage typiquement indien avec des centaines et des centaines d'invités. Et parmi les invités se trouve Balraj Bingley, un indien non résident, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un indien qui habite en Angleterre, sa sœur, et son ami Will Darcy, héritier d'une grande fortune immobilière californienne. Ce qui est intéressant, c'est que dans le roman de Jane Austen, Darcy arrive avec un sentiment de supériorité très fort, de par sa classe sociale, et qu'il juge que tout le monde est inférieur. Ici, il arrive avec un sentiment de supériorité lié à sa nationalité, c'est-à-dire qu'il considère bon, que les Indiens, c'est quand même un petit peu des sauvages, mais on a aussi un sentiment d'infériorité au sens où il ne comprend rien à ce qui se passe, il ne comprend rien à la langue, il ne sait pas comment on mange cette nourriture, et surtout, il n'a aucune idée de comment on danse ces danses extraordinaires. C'est Bingley qui s'y colle et qui initie la chorégraphie.
Jane Austen n'a pas été reconnue de son vivant, Alain Jumeau. Alors, il y a peut-être le fait que la pratique de l'écriture en elle-même n'était pas une activité socialement valorisée, mais il y a aussi le fait que c'était une femme.
Oui, il faut comprendre qu'une femme de la bonne société ne négocie pas directement avec un éditeur. Et d'autre part, elle ne met pas son nom sur la page de couverture d'un roman. Ça ne se fait pas. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que une dame, a lady, ne peut pas se permettre de se dévalorisée en pratiquant le commerce ou une activité commerciale. Or, publier, c'est une activité commerciale. Vous constatez que le premier ouvrage qu'elle a publié, Raison et Sentiment, Sense and Sensibility, a été écrit, si l'on en juge par la page de titre, by a lady. Ça veut dire qu'elle tient à garder son anonymat, et d'autre part, ça s'explique par le fait que justement, elle appartient à une bonne famille, et elle ne veut pas dire qui elle est. C'est une activité annexe. Et alors, les autres romans ne portent pas davantage son nom. Ils sont écrits par l'auteur de Raison et Sentiment.
Aujourd'hui, Marie-Laure Massey, Jane Austen est une véritable icône oui. de la culture anglo-saxonne.
Sans aucun doute.
En revanche, on sait que de son vivant, elle n'a eu aucune reconnaissance littéraire. Donc, comment s'est faite la reconnaissance? À partir de quel moment a-t-on commencé, d'une part, à redécouvrir ses romans, ou à les découvrir? Et comment a-t-elle atteint ce statut d'icône?
Elle a été redécouverte à la période victorienne, lorsque son neveu, James Edward Austen Lee, a écrit un mémoire, qu'il a intitulé un mémoire en l'honneur de Jane Austen, mais dans laquelle il en fait une présentation complètement fausse. Il publie ce mémoire en 1870, qui est l'apogée de la période victorienne. Il en fait l'ange du foyer victorien, puisqu'à l'époque, les femmes étaient considérées soit comme l'ange du foyer, soit comme des êtres complètement hystériques. Hein. Elles n'avaient le choix qu'entre deux visages, deux conditions, deux rôles. Et à partir de là, on a eu une image peut-être plus polissée, qui a plu aux victoriens, mais c'est notamment avec Virginia Woolf qu'on la redécouvre. Peut-être aussi à travers des critiques alors très négatives émises par Henry James, mais qui ont peut-être attiré à nouveau l'attention sur elle. Et puis c'est surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, notamment Churchill qui explique qu'il relit Jane Austen alors qu'il est malade, alité pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que ça lui a fait le plus grand bien de se replonger dans ce monde idyllique à un moment de chaos pour l'Angleterre.
He and I are so similar. We've been so stubborn.
You really do love him, don't you?
Very much.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire que finalement les romans de Jane Austen ont saisi l'esprit anglais,
l'essence de l'esprit anglais? Je pense qu'ils en ont vraiment une image mentale. Surtout depuis l'adaptation de 1995, hein, ils en ont une image mentale comme ils peuvent avoir l'image mentale de l'Englishness, qui est d'ailleurs un paysage de Constable dans l'imaginaire anglais, si vous voulez. Et elle fédère le lectorat au point de créer tout un système de références communes. C'est ça qui est aussi assez incroyable chez Jane Austen et qui fait son statut d'icône. Hein. Elle a créé l'héroïne la plus attirante, Elizabeth Bennet. Elle a une vision particulière donc de l'Englishness, de l'essence de l'anglicité, avec ses bonnes manières et puis sans doute qui parle beaucoup aux Anglais à un moment de crise, puisqu'on relit beaucoup Jane Austen. Lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des crises, on se replonge dans ce monde-là, peut-être pour se rassurer. Il y a une grande nostalgie. Elle fait partie de l'héritage littéraire. Et d'ailleurs, Orgueil et Préjugés est le roman préféré des Anglais.
Je suis encore persuadé, après plusieurs relectures de ces romans, que les romans de Jane Austen rendent intelligents. Tout le monde, tous ceux qui se donnent la peine de les ouvrir, pour une raison toute simple. C'est que le schéma est toujours le même. Vous commencez par l'erreur, l'illusion, voire l'aveuglement. Tout ça pourrait prendre une dimension tragique. Mais en fait, l'orientation est toujours comique, c'est-à-dire que la résolution est heureuse. Et le personnage principal, qui est en fait une femme, chemine de l'erreur vers la lucidité. Et ce cheminement, vous le suivez de très très près avec une empathie extraordinaire grâce à la technique du style indirect libre. Et si vous partagez les pensées d'un personnage, que ce soit Elizabeth, Emma, vous suivez son cheminement et vous devenez de plus en plus lucide, à la fois sur les autres et sur vous-même. Si ça n'est pas une bonne expérience de lecture, je recommande la lecture de Jane Austen.
If your feelings are still what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes have not changed. But one word from you will silence me forever. If, however, your feelings have changed, I would have to tell you. You have bewitched me, body and soul, and I love, and love, and love you. I never wish to be parted from you from this day on.
Lorsqu'on fait le pèlerinage dans le pays de Jane Austen, c'est-à-dire le Hampshire, on constate qu'elle fait partie des personnes qui sont enterrées dans la cathédrale. C'est un privilège, mais lorsque vous trouvez la dalle sous laquelle elle repose, vous avez une inscription tout à fait touchante, où elle apparaît comme la fille du pasteur George Austen, qui a vécu dans la région, à Steventon. On vous apprend que c'était une jeune personne d'une grande piété, d'une grande charité, mais vous cherchez en vain la mention romancière. Jusque dans la mort, ça reste une activité mise entre parenthèses.
Shut the door, please, Elizabeth.
En souvenir de Jane Austen, la fille cadette de feu le révérend George Austen, autrefois pasteur de Steventon dans ce comté, elle disparut le 18 juillet 1817, âgée de 41 ans, après une longue maladie, endurée avec la patience et l'espoir d'une chrétienne. La bonté de son cœur, la douceur de son caractère et les dons extraordinaires de son esprit ont gagné l'estime de tous ceux qui l'ont connue et l'amour le plus profond de ses proches. Leur douleur est à la mesure de leur amour. Ils savent que la perte est irréparable, mais dans leur immense chagrin, ils sont consolés par l'espoir ferme mais humble que sa charité, sa dévotion, sa foi et sa pureté ont permis que son âme soit reçue par son Rédempteur.
The person, be it a gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid.
Une vie, une œuvre, Jane Austen, avec Ariane Hudley, enseignante à l'Université Paris 7, Alain Jumeau, professeur émérite à la Sorbonne, traducteur notamment de George Eliot, Walter Scott ou Arthur Conan Doyle, et Marie-Laure Massey, enseignante à l'Université Paris 1. Texte lu par Céline Devalan, extrait des films Pride and Prejudice, réalisé par Joe Wright en 2005, de la version Bollywood Bride and Prejudice, réalisé par Govinder Chadha, et de la série de la BBC, inspirée du même roman. Une biographie de Jane Austen, traduite en français, Jane Austen, passion discrète, de Claire Thomalin, est publiée aux éditions Autrement. Prise de son Benjamin Vignal, Franck Malabry, mixage Alain Joubert, réalisation Françoise Camard, une émission de Catherine Pont-Imbert.
émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 juin 2016.